Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Bonjour et bienvenue dans Fabulari, le podcast dédié à la recherche autour des cultures romanes. Je m'appelle Alex Lachkar et nous inaugurons aujourd'hui un premier épisode en français en nous intéressant au court-métrage d'Alexis Langlois qui s'appelle « De la terreur, mes sœurs » et qui est sorti en 2019. Son nouveau film, « Les reines du drame » sera présenté dans quelques jours dans le cadre de la semaine de la critique à Cannes. Et pour parler du travail d'Alexis Langlois, j'ai invité Pierre Niedergang. Bonjour Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ?
Bonjour Alex, merci beaucoup pour m'avoir invité. Voilà, moi je suis Pierre Niedergang et je suis donc docteur, chercheur et enseignant en philosophie, pour l'instant rattaché à l'Université de Paris-Nanterre. Et mon travail porte surtout sur les théories queer, la psychanalyse et notamment la psychanalyse queer et la relecture de la philosophie française, par exemple celle de Deleuze ou de Foucault, à partir des théories queer, celles des années 90, mais aussi des théories queer plus récentes.
Et tu as publié un livre aussi ? Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ?
Oui, du coup, j'ai publié l'année dernière, en 2023, « Vers la normativité queer », qui est une tentative de relecture de la théorie queer à partir de la question des normes et de la possibilité pour les théories et les politiques queer de pas seulement être critiques des normes établies, mais d'être aussi potentiellement d'inventer de nouvelles normes, et notamment de nouvelles normes de la sexualité. Et du coup, voilà, j'essaie de m'en prendre à ce qu'on appelle l'interprétation purement antinormative des théories queer.
Merci. Alors on va un peu, bon, quelque part c'est un peu, on va un peu parler des normes aussi aujourd'hui, mais d'une façon peut-être un petit peu différente. Et en octobre dernier, tu as participé au colloque que j'organisais ici à l'Université de Vienne, qui était dédié à l'étude des relations féministes et queer dans les fictions contemporaines de langue romane. Et tu nous as parlé dans ta communication des rêves de révolution trans et des relations queer dans et autour du court-métrage d'Alexis Langlois, De la terreur, mes sœurs. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais un peu nous présenter et nous résumer ce court-métrage qui fait, je crois, une vingtaine de minutes, il est assez court.
Oui, voilà, bah, il fait en effet 20, 25 minutes, 27 minutes. Et donc, c'est un court-métrage d'Alexis Langlois qui est sorti en 2019 et qui met en scène principalement, en fait, le setting, c'est quatre amies qui sont des meufs trans et qui se retrouvent dans un bar par ailleurs très straight avec deux serveuses qui sont très straight et complètement fétichisant par rapport à ce groupe d'amis. Et en fait, tout commence par Kaltoun qui est une des amies et qui arrive, qui est complètement déprimée parce qu'elle s'est encore pris des réflexions transphobes dans la rue parce qu'elle fait souvent l'objet de transphobie, etc. Et en fait, tout le film va tourner autour de, un tissage imaginaire entre ces quatre amis de, qu'est-ce qu'il serait possible de faire, comment retrouver un peu de respiration par rapport à toute cette ambiance transphobe. Et donc, ça se présente grosso modo à partir de quatre vignettes où chacune invente soit un type d'action, soit un futur alternatif pour penser la sortie du système.
Oui, quand on dit le système, alors ça marche mieux à l'écrit qu'à l'oral, mais le système dans on peut l'écrire aussi CIS au début pour critiquer en fait la société transphobe et le système cis-normatif, en gros, pour faire court. Alors du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose qu'on regarde un extrait. Et c'est un extrait qui se situe au début du court-métrage, alors que justement les quatre amis sont réunis au café et qu'il y a eu justement ces regards-là de la part des serveuses. Et pour les gens qui nous écoutent, je précise qu'il y a un moment de l'extrait, il y a un silence, mais que c'est normal et que ça fait partie de l'extrait.
vérité, c'est que personne n'aime nos gueules de trans.
Non, mais c'est pas de leur faute. Ils en voient pas souvent des meufs comme nous.
C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute non plus quand ils nous agressent et nous tabassent. Et c'est pas de leur faute quand nos sœurs finissent par se tailler les veines.
Non mais vous devez avoir une raison, chérie. Le monde est transphobe.
Moi, je vous jure, je deviens cisphobe. Et si ça continue... Si ça continue, je vais faire un attentat.
Tu vas faire quoi? Tu vas cacher une bombe dans ta tignasse?
Je sais pas encore quoi, mais faut faire quelque chose. Et vite! Au lieu de pouffer, vous avez une idée, vous?
Alors, avant de parler de l'extrait, je voulais préciser quelque chose qui me semble important en fait d'ajouter d'un point de vue du contexte français dans lequel on se situe là pour cette conversation, parce que au-delà de l'actualité d'Alexis Langlois, donc dont le long métrage Les Reines du Drame sera montré à Cannes, on a un autre contexte qui est beaucoup moins festif, qui est une actualité législative française, parce qu'au moment où on se parle, on a la droite qui a déposé en France au Sénat une proposition de loi qui vise à interdire les transitions de genre pour les mineurs. Et on a l'extrême droite qui a fait une proposition de loi qui va dans le même sens à l'Assemblée nationale. Donc en fait, c'est quand même dans un contexte extrêmement anxiogène et réactionnaire pour les personnes trans et plus globalement pour toutes les personnes queer et pour toutes les personnes minorisées en France qu'on voit, on revoit ce court-métrage. Et du coup, je trouve que son existence, elle est peut-être d'autant plus importante aujourd'hui que, par exemple, moi personnellement, l'année dernière, quand je l'ai vu la première fois... pendant le colloque. Donc du coup, dans cet extrait, on a deux points de vue qui sont présentés. On a celui de Farah, qui est joué par Naël Daria et qui semble plutôt résignée et pas vraiment prête à mener la révolution, on va dire. Et de l'autre, on a le point de vue de Kaltoum, qui est incarné par Nana Benhamer et qui veut, disons, assez littéralement faire exploser le monde transphobe et cis-centré dans lequel elle et on évolue. Du coup, la question, ce serait d'abord peut-être qu'est-ce que ces deux points de vue y représentent selon toi. On est donc voilà, on en est encore au début du court-métrage, avant que tous les scénarios, leurs scénarios, soient représentés. Mais du coup, on a d'abord ces deux points de vue-là, et selon toi, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier?
Oui, bon, d'abord sur le contexte français, c'est vrai que c'est à la fois un contexte législatif, mais qui va en plus, enfin qui se surajoute ou auquel se surajoute un contexte culturel transphobe aussi, parce qu'il y a la sortie de l'horrible torchon transphobe qui est Transmania par Dora Monteau et Marguerite Stern. Et du coup, en effet, enfin la question de la possibilité de la résistance, à la fois le truc de dire en fait, c'est vraiment, je vais le dire cash, mais c'est vraiment la merde, quoi. Enfin, le présent, comme dirait Munoz, est là un bourbier. C'est vraiment quelque chose dans lequel on est en train de... On a l'impression, en tout cas, de s'empêtrer dedans et que on a du mal à s'imaginer, voilà, en sortir, etc. Et donc, la possibilité d'imaginer des futurs alternatifs et la possibilité... Et le fait de pouvoir sortir de ce bourbier du présent, c'est quand même important. Et du coup, bah... Justement, Kaltoum, dans le film, c'est donc la personne qui arrive dans le bar, les trois autres amis sont déjà arrivés, elle arrive dans le bar, elle est toute en noir, elle a des grosses lunettes noires, elle est à un moment, elle parle de camouflage, et c'est pour moi la représentation de quelqu'un qui n'en peut plus, enfin qui est arrivé à un point en fait elle ne cesse d'être confrontée, et on le voit elle l'évoque dans l'extrait qu'on a écouté, elle ne cesse d'être confrontée à la violence transphobe et aux effets de la violence transphobe sur les subjectivités trans. Les violences verbales qu'elle subit dans la rue. Il y a la fétichisation par des personnes cis qui peuvent se présenter comme gentilles, mais qui en fait viennent objectifier le corps des personnes trans. Alors il y a un exemple dans le film qui est joué par Justine Langlois, qui est la sœur d'Alexis Langlois, et qui joue une horrible serveuse qui arrive et qui a un comportement qui se veut bienveillant, mais qui est en fait insupportable de fétichisation. Il y a la violence institutionnelle et la question de la difficulté à changer de papier, à obtenir des papiers. Ça aussi, c'est représenté dans le film. Lorsque Farah tend sa carte de crédit au serveur et qu'en fait le serveur voit son dead name et en mode il psychote complètement, et la violence psychologique, la violence physique, etc. Donc tout un ensemble de violences à l'encontre des personnes trans qui, là en tout cas, c'est ce que représente Kaltoum, en vient à épuiser l'énergie vitale en fait et à épuiser les capacités de résistance de la subjectivité et des corps, quoi. Et ce qui va se passer, ce que je trouve très beau dans ce film, c'est qu'en fait, au contact de son groupe d'amis et en imaginant des futurs alternatifs, Kaltoum va d'une certaine manière se réempuissancer contre ce caractère extrêmement, oui, on pourrait dire dépressif, dépressivant et désempuissançant de la violence. Eh bien, la discussion et le tissage d'imaginaires alternatifs entre elles vont faire que Kaltoum retrouve un petit peu d'espoir dans le futur, quoi. Et c'est bien, enfin, la première chose qui se passe, et là dans l'extrait on le voit bien, c'est qu'en fait au début, justement, ce désespoir qui caractérise Kaltoum, comment il est représenté dans le film, eh bien par une bombe que Kaltoum a cachée dans ses cheveux. Et dans cette solution-là, parce qu'elle dit, voilà, je vais faire un attentat terroriste, je vais faire exploser le CIS système, bah, en fait, ce que j'ai dit dans la présentation, et ce que je dis dans l'article, c'est, en gros, c'est une solution autodestructive. C'est à la fois, oui, une violence à l'encontre du CIS système, mais c'est en même temps une violence à l'encontre d'elle-même. Et du coup, il y a une sorte d'auto-agressivité. Qui fait qu'elle, enfin cette solution-là va mener à sa propre destruction et en fait une sorte de suicide, ni plus ni moins. Et la première chose que font ses amis là, c'est de ridiculiser cette solution-là en mode, bah quoi, tu vas cacher une bombe dans tes cheveux, enfin c'est ridicule. Donc il y a comme ça une énergie, un peu, on pourrait dire, oui, une énergie du ridicule, une énergie de assez camp aussi, de en fait ces solutions autodestructives et complètement négatives, elles ne fonctionnent pas, elles ont quelque chose de ridicule. Et justement, cette force du camp et cette force du ridicule, pour moi, c'est Farah qui l'incarne, et donc qui est un personnage joué par Naël Daria, qui, là, par exemple, c'est une scène très solennelle, en fait, où Kaltoum, elle parle des violences qui sont faites aux personnes trans, elle parle du suicide, elle parle de... Et en fait, il y a un moment de silence, qui est un moment, on le voit pas là, parce que... Mais en fait, c'est un moment où la caméra fait le tour de la table, et c'est un moment très solennel, et on arrive à Farah, et qu'est-ce que fait Farah? Elle rote, voilà. Elle pose un gros, quoi, vraiment, pour dire, bah, en fait, c'est comme ça, et voilà. Après, je dirais pas que justement Farah c'est quelqu'un qui abandonne l'idée de résistance, parce qu'elle va proposer elle quelque chose qui relève d'un type de résistance, mais bien spécifique, et qui est une résistance par l'érotisme du coup. Mais on pourra en reparler.
Ben justement, c'était aussi une des scènes dont je voulais parler, que du coup comme tu l'as dit, dans la suite du court-métrage, les amis, en fait, elles imaginent différents scénarios. Et en fait, chacune fantasme à son tour sur une possibilité de résistance dans cette société qui, fondamentalement, leur est hostile, en fait, tout le temps, quoi. Et en fait, je voulais justement qu'on parle du premier scénario, parce que, en fait, ça concerne aussi très directement la proposition, enfin, ça a en rapport aussi avec la proposition de loi qui a été déposée, puisqu'il s'agit d'une parodie, en fait, de thérapie de conversion. Donc, les thérapies de conversion homophobes et transphobes qui ont toujours cours aujourd'hui en France, en Europe et un peu partout dans le monde. Et du coup, justement, ce premier scénario, en fait, c'est une parodie de thérapie de conversion. Et donc, on a le personnage de Farah, qui s'appelle Farah Makrout, si on veut citer son nom entier, qui propose un cours de cuisine à de jeunes personnes qui sont transmasculines. Et un cours de cuisine assez particulier. Et le scénario dégénère, puisque en fait, au final, la scène se termine sur une orgie queer. Et donc, on est très loin quand même des objectifs premiers d'une thérapie de conversion, qui sont de rendre les personnes soit hétérosexuelles, soit cisgenres. Et comme tu évoquais le camp tout à l'heure, du coup, ma question, ce serait un peu aussi pourquoi est-ce que du coup, il y a ce choix-là de proposer en fait une parodie de ce procédé qui est quand même extrêmement déshumanisant et violent à l'encontre des personnes queer. Et du coup, est-ce que tu peux préciser aussi peut-être un peu en même temps ce que c'est que le camp, en fait, comme esthétique?
C'est une question assez complexe, celle de la nature du camp comme esthétique. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a cette scène-là qui est pour moi une des scènes, une de mes scènes préférées, qui est vraiment, en fait, absolument hilarante, alors que le sujet est affreux. Enfin, c'est donc en effet une scène où c'est censé être une thérapie de conversion. Donc il y a les personnes sont alignées sur des chaises, il y a des chants, il y a des danses, et puis il y a aussi il y a des électrochocs, il y a donc qui fait référence à la violence psychiatrique en général. Donc en plus, ça, c'est non seulement la représentation de thérapie de conversion, mais ça en plus crée des lignes dans l'histoire de ces thérapies, l'histoire de ce qu'on a pu opérer comme violence psychiatrique sur les personnes queer depuis l'existence de la psychiatrie. Et pour moi, en fait, c'est un des exemples de ce que j'appelle une dialectique dans le film de Langlois entre ce qu'il y a au fond de plus négatif, les affects les plus négatifs, les choses les plus désempuissantes, les choses les plus violentes qui sont faites à l'encontre des personnes queer et des personnes trans en particulier, et la représentation de ces choses-là d'une telle manière que on en montre le ridicule, qu'on essaye de, à un moment, enfin, pour moi, c'est une forme de digestion esthétique qui ne va pas chercher à nier la réalité de ces choses-là, on cherche pas à se moquer de ce qui est fait aux personnes queer ou aux personnes trans avec cette esthétique camp. Mais d'une part, on se moque de l'esthétique même des énergies réactionnaires, c'est-à-dire que c'est ridicule. La manif pour tous, c'est ridicule, c'est risible. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui est très fort dans cet extrait-là, c'est qu'en effet, c'est ridicule et c'est risible. Et aussi, alors je pense que il y a l'idée dans le déchaînement sexuel que met en que fantasme Farah, l'idée que il y a beaucoup de répression liée à la sexualité et au genre, et qu'en fait, ce dont les personnes ont peur, c'est des énergies potentielles et du tourbillon d'énergie sexuelle, de plaisir que pourrait représenter le queer et la possibilité de changer librement de genre, de choisir le genre de ses partenaires comme on l'entend, enfin tout un ensemble de possibilités que la réaction n'admet pas parce que elle craint ces possibilités-là. Et sur le camp, le camp, ça a été, il me semble, historiquement, c'est d'abord un style d'humour, qui caractérisait le milieu interlope de New York au début du XXe siècle, et qui est un style d'humour et un style de double entendre qui est caractérisé par le fait que c'était un milieu extrêmement corseté, extrêmement... Donc, en fait, c'est un style d'humour et une esthétique qui est caractérisée par le fait que c'est une stratégie de résistance à l'intérieur d'un réseau de normes qui est extrêmement serré. Et du coup, ça donne des effets de secret, de révélation, de too much, de au contraire caché. Enfin, ça, C'est quelque chose que... et puis en plus qui a beaucoup évolué, mais le camp c'est ouais une esthétique qui est caractérisée par le fait d'avoir été produite dans par la nécessité de résister aux normes qui concernent la sexualité et le corps. Et cette nécessité là, elle en passe par le fait de rendre ridicule ces normes. Voilà, ça en passe notamment par là.
Oui, en l'occurrence, là, c'est très réussi aussi dans cette scène-là, qui est assez, qui est quand même assez réjouissante à regarder, parce que justement, il y a tout cet humour qui fait aussi que là où on pourrait se dire que ça pourrait être potentiellement difficile à regarder comme scène, en fait, pas du tout. En fait, c'est très drôle et c'est très réussi. Et je voulais aussi évoquer, on peut pas évoquer les quatre scénarios qui sont mis en scène dans le court-métrage, mais je voulais aussi qu'on évoque le scénario qui est le fantasme qui est proposé par Raya, où pour faire court, il y a Kaltoum qui est barmaid dans une boîte de nuit et elle est agressée par un homme cisgenre, et ensuite il y a tous les clients et clientes de la boîte de nuit qui commencent à l'agresser aussi. Ça, c'est le point de départ de la situation. Et ensuite, on a les trois amies qui font une entrée fracassante dans le club. Elles sont vécues intégralement de cuir et elles commencent à frapper les agresseuses. Là aussi, de manière, c'est aussi très drôle comme scène. Et ensuite, on a Raya qui castre le premier agresseur en lui arrachant son pénis avec les dents. Alors moi, j'ai montré cette scène à des étudiants et des étudiantes. Et en fait, qui ont été relativement choqués par la violence de l'extrait, alors que moi, pour être honnête, j'ai beaucoup ri quand j'ai vu cette scène, et je trouvais que c'était hyper puissant, qu'il y avait quelque chose de presque cathartique en fait quand on est une personne queer et a fortiori une personne trans de voir cette scène. Et du coup, je me demandais, parce que comme le sujet du colloque c'était aussi les relations. Et que toi, tu t'es pas intéressé seulement aux relations qui sont mises en scène dans le court-métrage, mais aussi autour du court-métrage. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, comme réflexion, en fait, ce genre de, cette différence entre les réactions, en fait, entre les réactions que moi, par exemple, j'ai pu avoir ou que d'autres ont pu avoir, et la réaction que ça a suscité chez des étudiants et étudiantes. Et est-ce que ça signifie aussi que c'est un court-métrage qui ne peut trouver son public que au prix, en fait, de la communauté queer? Et est-ce que c'est un court-métrage qui est fait avant tout pour la communauté queer et qui n'est pas forcément destiné à être visionné par un grand public ?
C'est vrai que je suis surpris de la réaction de tes étudiants et tes étudiantes, parce que c'est vrai que c'est une scène qui est quand même, enfin moi je trouve extrêmement jouissive. C'est-à-dire que, alors pour moi, ce qui est le plus intolérable dans cette scène, c'est plutôt le début. C'est le moment où Kaltoum se fait agresser, et c'est assez... Enfin, elle se fait plaquer contre le bar, la tête contre le bar, il y a tout le monde qui lui saute dessus, et on... Enfin, c'est pas mal joué, et on sent que... Enfin, moi, ça me... Il y a une tension qui se crée, mais justement, cette tension qui se crée dans la représentation de la violence vis-à-vis des personnes trans, elle est... Enfin, pour moi, il y a une espèce d'explosion qui soulage la tension, au contraire, de voir les trois amis débarquer en mode « on va leur péter la gueule » en effet, cette scène de castration qui est... où, en fait... donc c'est Raya qui commence à sucer donc le premier agresseur, Lélé, et en fait elle le castre avec les dents, quoi. Donc en plus il y a une représentation là qui est un petit peu qui est une ancienne représentation finalement très très psychanalytique, quoi. Donc peut-être que d'une certaine manière ça a pu réveiller ça chez tes étudiants et tes étudiantes, la menace de la castration, l'angoisse de castration, je sais pas. Mais non, je pense qu'en effet, il y a quelque chose de... S'il y a ce jeu-là entre la tension qui se crée au début avec la violence contre Kaltoum et ce soulagement de voir les amis débarquer, peut-être que un public qui est moins sensible et qui peut-être s'identifie moins, parce que je pense que moi, ce que j'y vois dans cette violence vis-à-vis de Kaltoum, c'est aussi la violence que moi, en tant que mec pédé, ai pu subir vis-à-vis de mon genre. Voilà. Et c'est pas être plaqué contre un bar, mais c'est recevoir des pierres dans la rue. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même des processus d'identification qui font que le moment de la violence, de la contre-violence, il est aussi jouissif pour des personnes qui ont déjà, d'une certaine manière, été confrontées à ce type de violence et qui ont en fait elles-mêmes toujours fantasmé de pouvoir rendre l'appareil. Et ce qui, moi, en tant que petit PD, je n'ai jamais réussi à faire, mais que j'ai fantasmé. Et après, une des questions importantes, c'est est-ce que politiquement, on a envie de ça. Et je pense que, voilà, moi, j'ai pas non plus envie de devenir un super violet warrior qui va casser la gueule. Pourquoi ? Parce que, bah, l'extrait le dit très bien, la scène se passe dans un bar qu'on imagine être un bar de province un peu beauf, et le terme beauf est important, puisque, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des beaufs qui agressent Kaltoum, c'est-à-dire des personnes dont l'esthétique est associée à une certaine classe sociale, etc. Moins, voilà. Et en fait, à la fin de l'extrait, Kaltoum hurle et dit, mais Raya, parce que c'est Raya donc qui imagine ce fantasme de violence, Kaltoum hurle et dit, mais Raya, mais t'es un monstre, c'est hyper violent ce que tu proposes, et en plus, est-ce que la solution, c'est vraiment les personnes trans contre les classes précaires de la population, etc. Et donc, c'est aussi la question de l'intersectionnalité, c'est aussi la question de répondre à la violence par la violence, enfin, en tout cas, c'est ce que dit Kaltoum dans le film, c'est mettre deux types de populations précarisées l'une contre l'autre d'une certaine manière, en tout cas dans ce fantasme-là, et ça comporte des dangers aussi. Donc il y a à la fois, et c'est ça qui est super, enfin, parce que c'est plein d'ambiguïté, c'est ça qui est génial dans le film d'Alexis, il y a à la fois la jouissance liée à la scène elle-même, où on se dit « Ah ouais, grave, c'est super, cette violence, enfin ça me fait plaisir », et en même temps, l'apport critique de dire « Oui, ok, on le fantasme, mais par contre, est-ce que c'est vraiment réalisable, est-ce que c'est vraiment souhaitable ou désirable ?»
Oui, mais d'ailleurs, en plus, justement, après, on a eu ça a donné lieu à une discussion avec les étudiants et les étudiantes sur la question de la violence légitime et tout ça, et de qui légitime quel type de violence, etc., et qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi. J'avais une dernière question, mais en fait, tu as répondu un peu tout au fil de notre discussion, donc je vais la laisser de côté. Et du coup, c'était ma dernière question. Il faut qu'on s'arrête là, malheureusement. Mais j'espère que ces analyses auront donné envie aux auditoristes de s'intéresser au travail d'Alexis Langlois et de regarder ses films et ses courts-métrages, et aussi de lire ton livre qui s'appelle « Vers la normativité queer » et qui est sorti l'année dernière. Et merci beaucoup, Pierre, d'avoir pris le temps de discuter de tout ça avec moi. Et si tu as quelque chose à rajouter encore, tu peux.
Non, bah écoute, c'est tout bon et je te remercie, Alex.